Bulle d'histoire.
Hein ?
Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bande dessinée.
Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez sur Art District pour une nouvelle bulle d'histoire. Cette semaine, je suis avec Valérie Mangin. Elle va nous dire qui elle est. Mais Valérie Mangin, c'est une des scénaristes, une des autrices, à mon avis, les plus importantes de la bande dessinée française contemporaine. On va dire ça comme ça. Voilà, pour moi, ça résume bien les choses, en tout cas. Valérie, bonjour. Question rituelle des bulles d'histoire pour tous les gens qui ne connaissent pas la BD, qui nous écoutent. Qui es-tu ?
Ah, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si je suis une des autrices les plus importantes en ce moment, mais en tout cas, oui, je suis une scénariste de bande dessinée, très heureuse de l'être. Une historienne de formation qui a longtemps étudié à l'école des Chartes et qui a fait une thèse sur l'époque moderne. Et je suis surtout une grande amatrice de péplum sous toutes ses formes. J'ai le grand plaisir d'en faire moi-même, dont Alix Senator.
Donc tu es une scénariste heureuse, ce qui est pas mal.
C'est l'essentiel.
Donc comme tu dis, tu écris les scénarios de la série Alix Senator. Ma première question, parce que moi j'ai découvert Alix très très tard dans ma vie d'amateur de bande dessinée, bizarrement. Toi, à quel moment tu es tombé dans Alix et comment tu l'as découvert ?
Ah, je l'ai découvert assez jeune, je devais avoir 12 ans et je devais commencer le latin en classe de 5e ou de 4e, je ne sais plus. Et c'était assez austère au départ et pour m'encourager, mes parents m'ont offert un Alix, le dieu sauvage. Et j'ai beaucoup aimé à la fois l'histoire, l'aventure et à la fois le cadre historique. Et donc ça m'a encouragé à faire ensuite des études de littérature latine et puis d'histoire. Mais je suis vraiment tombée sur Alix à l'adolescence, peut-être le meilleur moment en fait.
Ouais, probablement. Je me disais que j'allais le faire lire à ma fille qui a 12 ans aussi, justement, parce qu'elle aime bien la bande dessinée. Et puis je pense qu'Alix, effectivement, c'est un univers à la fois très romanesque et en même temps très ancré.
Oui, tout à fait. Martin arrive à faire ça très bien, mixer à la fois la grande aventure, le merveilleux, le fantastique parfois, et un cadre historique assez fidèle, même si évidemment il y a toujours un peu d'anachronisme, volontaire ou non, et puis des choses qu'il a mis à l'époque qu'on croyait vraies et qu'on sait fausses de nos jours. Mais malgré tout, le cadre historique qu'il met à ses albums reste quand même très, très intéressant. Si pour une enfant de 12 ans, je pense que le meilleur Alix, c'est Yorix le Grand de nos jours. J'ai plusieurs copains avec des enfants adolescents qui ont commencé par là et qui ont bien accroché. Donc c'est celui que je recommanderais.
Parce que je ne sais pas si Alix Senator, c'est déjà des choses qu'on peut lire à 12 ans. Est-ce qu'il ne faut pas avoir un peu de bouteille ?
J'hésite à répondre parce que mes neveux de cet âge-là l'ont lu. Donc, mais bon, ils ont lu les bouquins de leur tati, c'est un peu spécial. Non, peut-être 13-14 ans, on peut commencer, mais c'est un peu violent. Mais à l'époque de Game of Thrones, je crois que les adolescents ont vu beaucoup aussi et qu'on peut y aller sans problème.
Alors, en lisant les Alix et surtout en lisant les albums que tu scénarises, donc tu es historienne, chaque fois que je lis, j'ai l'impression que c'est une excellente façon de rentrer dans cette histoire ancienne, cette histoire antique, parce que les personnages sont vraiment merveilleusement incarnés. On a vraiment l'impression de les connaître.
Merci. C'est toujours ce qu'on essaie de faire. Oui, je crois que peut-être le plus important d'une bande dessinée, ce sont les personnages. C'est à eux qu'on s'identifie, c'est avec eux qu'on rentre dans l'histoire. Donc s'ils sont ratés, malheureusement, on aura beau bien réussir le background et avoir une bonne aventure pleine de rebondissements, finalement la BD sera un peu ratée. Et j'essaie toujours, oui, d'avoir des personnages très incarnés qui sont vraiment, ce qu'ils sont vraiment, ce qu'ils sont, avec leur caractère à eux, leur réaction face aux événements. Les enfants sont vraiment des enfants. J'allais dire Alix Senator, pour moi c'est vraiment un homme de 50 ans, même si c'est un homme qui reste vraiment très actif. Il a son âge malgré tout et c'est vraiment un romain aussi. Ça me permet de montrer un peu l'écart entre les mentalités de l'époque et les mentalités actuelles. Enfin, j'essaie de faire entrer tout le monde là-dedans, effectivement.
Alors, faire entrer tout le monde là-dedans, ça veut dire aussi faire rentrer tout le monde dans une certaine réalité historique ? Parce que si Martin, à son époque, la connaissance n'était pas aussi aboutie que la nôtre, on va dire, même si elle n'est jamais aboutie, toi, t'arrives à un moment où la connaissance de cette époque devient de plus en plus fine. Comment on joue avec à la fois la réalité historique, la réalité romanesque, les envies de scénaristes, les envies des personnages, parce que oui. comment on mixe tout ça pour faire un truc qui tient la route ?
C'est très compliqué. La réalité historique, on la connaît de mieux en mieux, mais on la connaîtra jamais tout à fait. Je veux dire, heureusement pour nous, il reste encore beaucoup de trous dans l'histoire. Par exemple, dans le tome 1 d'Alix Senator, je fais mourir Agrippa, donc le gendre de l'empereur Auguste. Je le fais tuer par un aigle, ce qui n'est pas du tout historique, bien sûr. Mais heureusement pour moi, on ignore comment Agrippa est mort réellement. Donc finalement, on peut tout imaginer. Et c'est là que finalement se situe le rôle du romancier ou du scénariste de bande dessinée. Ciné ou de film, c'est dans toute cette histoire on peut finalement mettre ce qu'on veut, mettre nos pulsions romanesques. Après oui, on est forcément tenu par les personnages qu'on a créés et à un moment ils nous tiennent à la gorge aussi. Je crois que Alix, un personnage qui existe depuis 1948, qui a vécu beaucoup de choses, dont la personnalité s'est construite au fil du temps, il nous rend un peu prisonniers. Je crois que c'est pour ça aussi que j'ai voulu un peu tricher avec le personnage en me situant 20 ans après. Finalement, ça me permet de me détacher un peu du personnage qu'a créé Martin et de donner moi une personnalité un peu différente. Mais c'est vrai que tout ça est très conditionné finalement, oui.
Et en même temps, Alix, c'est un des seuls personnages, je trouve, qui est aussi plastique que ça. Par exemple, personne voit Astérix 20 ans après, par exemple.
Oui, c'est vrai.
Bien, Tanguy et la Verdure, on ne les voit que à leur âge. Enfin, pour prendre des personnages de l'époque d'Alix, hein, oui. de cette BD classique franco-belge. Oompa Oompa, on le voit pas vieux non plus. Enfin voilà, tous ces personnages sont très figés, mais Alix.
Alix a l'avantage peut-être sur ces personnages-là d'être moins manichéen, moins radical dans son caractère en fait. Alix, dès sa jeunesse, bon évidemment c'est un héros, donc il est loyal, il est honnête, il se bat pour la justice, mais en même temps c'est quelqu'un qui a des doutes, qui se trompe parfois, qui fait parfois de grosses bêtises. Je crois que c'est dans La Griffe Noire où il y a un enfant qui est empoisonné malgré lui, où il n'arrive pas à empêcher cet empoisonnement. Voilà, c'est un héros qui a des failles quand même, qui en plus dans le compagnon Ena, qui est encore peut-être encore plus faible que lui, je dirais faible au sens un sens assez positif en fait. C'est vraiment un jeune adolescent qui a toutes les fêlures qu'on peut avoir à cet âge-là. Donc finalement, c'est des personnages qu'on peut imaginer évoluer parce qu'ils sont humains comme nous finalement. Donc nous on évolue dans le temps et eux aussi. Peut-être que pour Astérix, effectivement, ou Obélix, qu'on voit toujours, ils sont éternellement au même âge, éternellement avec leur caractère extrêmement tranché. On a du mal à imaginer Obélix sans son menhir ou Astérix qui arrêterait d'être malin tout d'un coup, quoi. C'est sûr.
Non, mais c'est une question que je me posais justement en relisant, parce que même d'autres personnages réalistes, entre guillemets, comme Blake et Mortimer, les auteurs ne peuvent pas les faire vieillir, ça ne marchera pas.
Julien les avait vieillis je ne sais plus comment s'appelait cette collection de formats, format rectangulaire.
Ah oui.
J'ai plus le titre de la bande dessinée en tête, mais les avait vieillis comme ça. C'était assez intéressant d'ailleurs, oui.
Mais ça n'a pas pris.
Ça n'a pas pris, non. Il est peut-être arrivé un peu tôt. On préférait faire rajeunir les personnages encore à l'époque, où il y avait c'est l'époque du petit Spirou, tous ces personnages-là. Bon, le petit Alix, ce serait un peu compliqué, vu qu'il a 18 ans déjà dans la bande dessinée d'origine, donc ça serait...
Mais il n'y a pas une série, le petit Alix, qui est sortie ou
Oui, maintenant, oui, Alix Origine, en fait. Là, il est vraiment enfant, en fait.
Oui, c'est ça. Oui, c'est le pari, l'autre pari extrême.
Oui, voilà. C'est plus une bande dessinée plus jeune public, plus ciblée manga, et effectivement, on le voit vraiment enfant, oui.
Quand tu écris un Alix Senator, est-ce que tu joues avec l'Alix classique ou est-ce que tu fais des... Alors, je ne connais pas très très bien l'univers d'Alix, je connais un peu, mais pas parfaitement. Donc, comment tu t'inscris dans l'Alix classique? Est-ce que tu dialogues avec les autres albums? Est-ce qu'il y a des suites, des choses trappes, des choses comme ça, qui permettent aux lecteurs vraiment fans d'Alix de passer de l'une à l'autre? Et de jouer, j'imagine.
Oui, beaucoup. Ben, ça dépend des albums, en fait. Certains sont des aventures totalement, je dirais, détachées de la jeunesse d'Alix. Mais le dernier est particulièrement lié, puisqu'il revient à Khorsabad. Khorsabad, c'est le lieu où il apparaît pour la première fois, en fait, en 1948, quand Martin le crée. On le voit, jeune esclave, seul, dans les ruines de Khorsabad, qui vient d'être détruite par les Parthes. Et on se demande un peu ce qu'il fait là. Et ça m'amusait de le voir revenir un peu dans cette cité et de réexplorer un peu sa jeunesse, justement. C'est pour ça que dans le tome 11, je le montre la bataille où son père disparaît, en fait, où il est séparé de son père, où il est réduit en esclavage par les Parthes, emmené à Khorsabad. Je revisite un peu tous ces épisodes-là. Après, j'ai souvent plaisir dans les scènes à en rappeler d'autres. Là, c'est pareil dans le tome 11, quand Alix réunit une armée de statues d'argile en fait pour effrayer ses adversaires. Je fais une allusion au dieu sauvage, donc la première Alix que j'ai lue, en faisant dire à Alix que ça lui rappelle la ruse d'un général fou qu'il a connu en Afrique. Bon, des allusions comme ça, il y en a beaucoup. Hein, ça, je vais pas cacher, c'est toujours le plaisir du scénariste de rappeler les choses. Et puis, je veux dire que oui.
Non, vas-y, termine.
À mon grand plaisir personnel, je suis en train de réaliser un Alix classique, parce que je parle d'Alix classique pour le séparer la série originelle de la série de ma série Alix Senator, qui va être reliée au tome 13 d'Alix Senator. Donc on verra une aventure d'Alix classique, à la fois indépendante, mais qui va trouver une suite assez inattendue, enfin j'espère en tout cas, dans l'Alix Senator numéro 13. Je vais pouvoir jouer vraiment, faire un double jeu de scénario qui m'a beaucoup intéressé en tant que scénariste, qui j'espère intéressera beaucoup les lecteurs aussi.
Et quelles sont les limites à ne pas franchir quand on écrit un Alix Senator ou un Alix classique? Est-ce qu'il y a des choses, je parle pas du comité Martin ou de choses où, voilà, ça c'est un autre problème, mais par rapport au lecteur, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire?
Non, je crois qu'on peut tout faire. Même par rapport au comité Martin, bon, c'est vrai qu'Alix classique, il faut rester dans les canons de la série, je dois dire, elle existe depuis longtemps. Alix Senator, on a une totale liberté de ce côté-là, on ne nous a donné aucune... Voilà, aucune restriction. Pour le lecteur, j'en vois pas trop non plus. C'est plutôt des restrictions personnelles. Moi, je sais que faire des scènes qui seraient... j'aime bien la violence, mais l'ultra-violence m'intéresse pas trop. Faire des scènes érotiques ne m'intéresse pas non plus, donc j'imagine pas en mettre dans Alix. Après, je pense pas que ça intéresse Thierry non plus, donc voilà, on en met pas, en fait. C'est plutôt des choses comme ça. Moi, je sais pas trop comment le lecteur réagirait dans ce cadre-là. Enfin, plutôt bien quand on voit le succès de séries comme Urena, qui sont plus adultes, bon, qui marchent très bien. Donc, je pense que ça pourrait fonctionner aussi sur nos séries. Après, voilà, simplement des choses qui nous intéressent pas trop à titre personnel.
Urena n'a pas le passé historique d'Alix.
Oui, voilà, de toute façon, oui.
J'ai l'impression aussi que dans ces séries, ce qui est important à la fois dans l'Alix classique et le Senator, c'est qu'il y a le lecteur et comment dire une sorte d'impression de déjà-vu, même si c'est pas tout à fait ça non plus. Il faut qu'il puisse vraiment se retrouver, même s'il y a des changements, mais en permanence dans un univers qu'il connaît.
C'est vrai pour une grande partie des lecteurs d'Alix Senator qui sont aussi des lecteurs d'Alix. Là, effectivement, ils aiment beaucoup qu'on leur rappelle des choses, que les choses se répondent et résonnent entre elles. Ça permet justement de voir l'évolution du personnage, ou sa non-évolution d'ailleurs, sur certains points. Après, on a aussi beaucoup, heureusement, de jeunes lecteurs qui découvrent Alix Senator, qui connaissent pas du tout la série classique. Je veux dire qu'ils s'en fichent complètement. Après, j'espère que ça donnera envie à certains d'aller la lire, mais voilà, c'est pas du tout une obligation. Oui, c'est ça... J'espère que l'esclave de Corsabat peut se lire sans avoir connu du tout Alix, quoi.
Ah ben moi, je pense qu'on peut tout à fait. Et c'est même, je dois dire que par rapport à d'autres albums d'Alix Senator, c'est un des albums moi qui m'a donné le plus envie, justement, de découvrir dans des d'anciens albums de l'Alix classique, parce qu'effectivement, il parle de son père et on sent qu'il y a un nœud psychologique là qui est important, donc on a envie d'en savoir plus, quoi.
Alix, c'est quand même un orphelin, oui, qui a perdu son père dans des conditions extrêmement violentes, qui ensuite a été réduit en esclavage. Donc, il a quand même un passé traumatique assez important, qui est assez intéressant à explorer. Oui,
pour une scénariste, je pense que c'est une vraie mine d'or, quoi.
Ah oui, c'est. Je sais pas si Martin l'a fait volontairement, mais c'est très bien vu à l'arrivée. Oui.
Attends, je reprends mes questions. Oui, je voulais revenir à une chose que tu as dit au départ, c'est les trous de l'histoire.
Oui.
Dans lesquels les scénaristes peuvent se glisser pour... Là aussi, quelle est la limite à ne pas franchir?
Bah, ce serait vraiment pour moi le contresens général, c'est-à-dire faire que César ne meure pas aux îles de Mars, par exemple. L'événement bien connu qui serait détourné, là on tomberait dans l'Uchronie pour moi. Alors pourquoi pas, mais pour le coup c'est pas Alix Senator, c'est quand même une série sur de background historique, pas du tout de science-fiction ou de, il y a un peu de fantastique, mais faut quand même que ça reste, qu'on reste dans le cadre du vraisemblable, quoi. Un événement comme ça, je dis comme la non-mort de César, c'est quasiment impossible. Faut que Alix tout ce qui lui arrive doit être cohérent avec l'histoire générale, je dois dire. Quand il lui arrive des aventures extraordinaires, quand il découvre une pyramide, par exemple, perdue dans le désert et qu'on ne connaît pas, bah, c'est parce que cette pyramide est détruite à la fin. Donc, c'est normal qu'on n'en ait plus de traces de nos jours. Faut toujours s'inscrire dans l'histoire qu'on connaît, en fait. C'est ça le grand truc.
Oui, c'est une contrainte forte, c'est-à-dire que la mort des vrais des personnages historiques, les événements sont un guide qu'on ne peut pas bouger.
Tout à fait, voilà. Il y a un des grands amours d'Alix, Lydia, qui meurt dans le tome 9. Il se trouve que le tome 9 se déroule en moins 11 avant Jésus-Christ et que la seule chose qu'on connaît de sa mort, c'est justement qu'elle meurt cette année-là. Donc voilà, là j'étais obligée. Après, c'est super parce que pour un scénariste, faire mourir une des grandes passions de son héros, c'est un moment extrêmement dramatique que j'espère que j'ai pu transcrire. Et en même temps, ça fait peur, il faut le faire. Enfin, on est obligé, mais c'est un des grands moments. On sait que ça va être un des grands moments de la série, donc c'est bien finalement. C'est une contrainte tout à fait positive.
Une question que j'ai jamais posée à des scénaristes, c'est qu'est-ce que ça fait de faire mourir des personnages dans des histoires ?
C'est affreux. C'est affreux. C'est-à-dire qu'au départ, intellectuellement, on s'est dit, bon, je vais la faire mourir en ce tome-là, c'est bien, ouais, ça va être dramatique, l'acteur va marcher, ça va être super, etc. On le vit assez dans un moment d'exaltation comme ça. Puis au moment où on écrit la scène, c'est déjà plus dur. Quand on finit par vraiment la dialoguer, la fignoler, c'est vraiment plombant. Et on se dit, oh, quand même, j'aurais peut-être pu la faire durer encore plus longtemps, encore quelques mois. Pourquoi la tuer maintenant? C'est trop dur, il mérite pas ça. Pourquoi elle était gentille, j'aurais pas dû. Enfin, c'est affreux. Faire mourir un personnage, c'est affreux. Et voir la page dessinée avec le personnage qui meurt, c'est encore pire.
Et est-ce que tu as sauvé des personnages quelquefois?
Non. je me force la main parce que j'écris des synopsis très détaillés que j'envoie évidemment à Thierry, au comité Martin et à tout le monde. Donc voilà, c'est décidé, il faut y aller maintenant. Je me force la main comme ça. Sinon, je crois que j'aurais tendance à faire ça. Oui.
Personne t'a demandé, comme dans les corridas, la grâce finale avant le coup de grâce.
Non, c'est pas. Ou les combats de gladiateurs quand l'empereur levait le pouce pour épargner. Non, malheureusement.
Alors, depuis quelque temps, tu continues à travailler dans l'univers de Jacques Martin et tu scénarises une autre série historique qui s'appelle Gène. Je ne sais pas si on prononce comme ça, je pense.
Gène, oui.
Gène, voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qui est Gène, parce que c'est beaucoup moins connu qu'Alix, sauf par les fans de Martin et les grands fans de BD. Mais pour le grand public, c'est un personnage qui est quand même un peu en retrait.
Oui, c'est une. Martin l'a créé dans les années 70, qui est un peu paradoxal parce que Gène, en fait, l'histoire se situe à la fin de la guerre de 100 ans. Gène est un jeune Français qui essaie en vain de sauver Jeanne d'Arc et qui devient ensuite le compagnon d'un personnage sinistre qui est Gilles de Rais. Et Gène ignore totalement les crimes de Gilles de Rais, mais enfin, il le côtoie, il vit avec lui. Parfois, il construit une chapelle aussi pour lui, parce que Gène, de son métier, est architecte et maître d'œuvre. C'est un artiste avant tout. Et on le voit évoluer dans toute cette période qui est très sombre, très sanglante. Je crois que Gène est peut-être la série la plus sanglante de Jacques Martin, la plus dure. On voit passer les écorcheurs, on voit passer les sorcières avec les mises à mort brutales, évidemment. Et Gène essaie un peu de ramener un peu d'ordre et de justice dans ce paysage chaotique de guerre de guerre franco-anglaise qui débouche parfois sur la guerre civile et partout où l'ombre de Gilles de Rais plane. Donc c'est une série assez vraiment la plus sombre de Jacques Martin.
Qu'est-ce qui t'a attiré quand on t'a proposé de scénariser cette série? Qu'est-ce qui t'a attiré au-delà de l'univers de Martin qui est toujours un délice.
Oui. Alors, c'est un peu ce contexte déjà justement assez qui me changeait un peu de l'Antiquité et qui était assez sombre et finalement pendant une guerre civile tout peut arriver. Le bien comme le mal, évidemment plus le mal vu le contexte que le bien, mais malgré tout on doit pouvoir en tirer quelque chose. Et le fait de montrer un artiste, c'était ça qui m'attirait aussi en fait. C'était l'occasion de pouvoir montrer mon rapport aussi à l'art en général. Le premier tome que j'ai scénarisé, s'appelle Le Conquérant et se passe à Bayeux, et tout tourne un peu autour de la tapisserie de Bayeux. Et ça m'amusait aussi de montrer le rapport de ce personnage qui est un artiste vis-à-vis d'une œuvre d'art, le rapport aussi de tous les gens qui sont autour de lui vis-à-vis de ça. Et quelle place l'art peut avoir pendant une période aussi difficile finalement? Qu'est-ce que l'art apporte pendant une période de guerre où finalement tout le monde a autre chose à faire que de regarder la tapisserie de Bayeux pendant la guerre de 100 ans en fait? Tout le monde lutte pour sa survie. Mais malgré tout, c'est des choses qui restent importantes. Et ça m'intéressait de le montrer.
Mais j'imagine que c'est un travail j'allais faire un jeu de mots, un travail de romain, parce que passer de l'Antiquité au Moyen-Âge,
J'ai une solide formation, heureusement, grâce à mes études à l'école des Chartes et mes classes préparatoires. J'ai beaucoup étudié le Moyen-Âge français, donc ça a pu m'aider. Après, bon, j'ai eu un délai suffisant pour écrire l'album, donc ça a été. Puis en partant de la tapisserie de Bayeux, j'ai triché aussi. Comme j'habite Bayeux, bon, c'est quelque chose que je connaissais bien. Je ne suis pas allée. J'ai bien choisi mon sujet, on va dire, pour que ce soit relativement simple.
Alors là, c'est pour revenir à Martin, Jacques Martin. Quand on lit les Alix et quand on lit les Jen, c'est quand même des personnages extrêmement lumineux. C'est une chose qui m'a toujours frappé dans son travail. Les choses autour peuvent être toujours d'une noirceur ou sont absolument dramatiques, mais il a créé à chaque fois des personnages extrêmement lumineux. J'imagine que c'est un vrai plaisir de travailler des personnages aussi beaux.
Oui, tout à fait, oui. Mais j'avoue qu'Alix me séduisait beaucoup quand j'étais adolescente. Son côté blond, comme ça, son côté... sa tenue en rouge aussi, c'est vrai que c'est un personnage qui attire l'attention au sens positif du terme, qui arrive c'est vrai qu'il est très lumineux, mais en même... Enfin, j'aime la subtilité qu'il y a en lui aussi, c'est-à-dire qu'il est lumineux, il essaie toujours de travailler pour le bien, la justice, etc. Mais en même temps, il a une part d'ombre. Alors lui, c'est Enak, un peu sa part d'ombre, où finalement, il existe par contraste par rapport à cette part d'ombre. Et l'ombre, non seulement Enak, bien sûr, mais tout le monde autour de lui, tous les personnages sont un peu gris, j'allais dire, ni noir ni blanc, comme... On pourrait trouver qu'il y a beaucoup de personnages de cette époque-là qui sont plus tranchés. C'est ça qui est plaisant quand même, c'est que cette lumière, elle n'est pas absolue, quoi. Elle scintille par moments, et à d'autres, c'est plus difficile. Et c'est une lutte pour la lumière, en fait, plus qu'une lumière elle-même, quoi.
Et est-ce qu'entre Jen et Alix, il y a des rapports? Est-ce qu'il y a des passerelles? Est-ce que c'est facile de se glisser d'un univers à l'autre?
Je pense pas vraiment qu'il y ait de passerelle, quoique ça m'amuserait de faire une histoire en deux parties, peut-être avec un héros dans chacune des parties. Mais là, je vois pas trop de rapport. Alix est aussi, c'est censé se passer pendant la guerre civile entre Jules César et Pompée, mais c'est quelque chose qu'on voit pas vraiment. Alix n'intervient pas sur les événements historiques proprement dit, sur la guerre proprement dit pour l'instant. Et je crois que c'était la volonté de Martin. Alors que Gênes est beaucoup plus au cœur des événements, quoi. Il essaie de sauver Jeanne d'Arc, il essaie d'influencer Gilles de Rais. Il rencontre le roi Charles VII, il rencontre les puissants. Il essaie de les influencer, d'intervenir sur le cours de la guerre, ce qui n'est pas du tout le cas d'Alix, qui en est vraiment... parfois, ça lui arrive de rencontrer César, évidemment, tout le monde sait bien, mais il est vraiment en dehors. Quand il est à Alésia, il n'intervient pas dans le siège d'Alésia, par exemple. Il reste vraiment en dehors de tout ça, quoi, ce qui n'est pas le cas de Gênes, qui est vraiment au cœur de l'action, lui.
Ah oui, parce que moi, je pensais à des Alix comme le... C'est pas toi qui l'as scénarisé, hein, l'Alix en Angleterre, chez les Bretons, entre guillemets, quoi.
Où là, il est... les plus récents, ça change un peu avec les nouveaux auteurs. Je pensais aux Alix vraiment de Jacques Martin, oui. C'est vrai, oui.
Ah oui, j'avais une autre question. C'est que je l'ai plus chez moi, je sais pas où je l'ai mis, cet album. Tu avais participé à un album sur la guerre de 14.
Un album collectif, oui.
Un album collectif où il y avait...
Les traces de guerre, oui, c'est ça.
Beaucoup d'auteurs.
Oui, j'avais fait ça avec l'atelier virtuel, c'est-à-dire que j'avais scénarisé ça, mais il y avait eu 7 ou 8 dessinateurs qui avaient travaillé dessus avec moi. Denis Bajram, Alexis Santenac, Brice Cossu. Là, je vais voir les citer, donc je vais forcément oublier quelqu'un. Yoann Guillaume avait fait les couleurs aussi. Enfin, Thibaut de Rochebrune qui a fait Une Humain après avec nous. Enfin, oui, on avait fait une petite histoire en collectif comme ça, c'était très sympa.
Oui, là, c'était une incursion dans l'histoire contemporaine. Bon, même si tu avais réussi à
j'avais triché, c'est pareil.
Voilà, tricoter une histoire avec un Gaulois, je crois, ou un homme préhistorique.
Oui, même, l'idée, c'était que la guerre était éternelle, en fait. Donc, on voyait, ça commençait sous la préhistoire, où on voyait une sorcière montrer des images dans le feu à des enfants. Et on voyait, finalement, des images de guerre qui se passaient à toutes les époques, jusqu'à arriver, évidemment, à la guerre de 14 et puis la guerre de 45, enfin...
À part ça, tu n'as pas envie de raconter des histoires contemporaines?
Non. Réponse est radicale, mais non. Visuellement, je ne suis pas très attirée par la période contemporaine. C'est vraiment les hommes en costume, c'est pas du tout mon truc. J'aime beaucoup la science-fiction aussi. Ça m'arrive souvent de faire de la science-fiction. Mais j'avoue que oui, pour moi, la bande dessinée, c'est un art graphique. Donc, le visuel est extrêmement important. Et pour l'instant, le visuel contemporain, ça m'attire pas vraiment. Après, peut-être que si j'avais une idée précise, bon, j'aurais envie de la traiter aussi. Je dis non, ça se trouve que dans 6 mois, j'aurai une idée et je serai sur un truc qui se passera au XXe siècle. Mais pour l'instant, non, j'ai jamais eu d'idée qui m'ait donné envie de faire une bande dessinée contemporaine. Et voilà, ça m'attire pas trop. Même en tant que lectrice, d'ailleurs. Mais c'est... C'est vraiment un goût personnel.
J'ai une dernière question, c'est sur le dessin et sur le rapport entre les scénaristes et les dessinateurs. Parce que Alix Sanator, donc là, le 11e tome vient de sortir.
Oui.
Toujours avec le même dessinateur.
Oui. Oui.
C'est des couples qui m'ont toujours fasciné, moi, les dessinateurs scénaristes, comme ça, sur des séries au long cours.
Et surtout que avec Thierry, c'est pas notre première série. On a commencé ensemble. Enfin, on s'est rencontrés en 2002, je crois. On a commencé à travailler ensemble en 2004 sur une série qui s'appelait Le Dernier Troyen, qui était une adaptation, à la fois un mélange de l'Odyssée et de l'Énéide en science-fiction justement, sur lesquels on a fait 6 tomes avant Alix Sanator. Donc, vous voyez, on travaille ensemble depuis. On se connaît quasiment depuis 20 ans maintenant. On est vraiment un très vieux couple. Oui.
J'imagine que l'un et l'autre, vous devez quasiment anticiper, j'imagine, certains
moments. Maintenant, oui. On sait ce qu'on attend l'un de l'autre, oui. Je sais ce que je peux demander à Thierry, ce qu'il aime faire, ce qu'il aime pas faire. Lui aussi, enfin, il sait bien, il sait à quoi s'attendre maintenant. Mais bon, on arrive à se renouveler quand même, c'est ça qui est sympa.
Je confirme pour les auditeurs, Alix Sanator, évidemment, il y a une suite, entre guillemets, même si les albums peuvent se lire indépendamment, mais chaque album, à chaque fois, est une histoire très, très différente, très particulière, et certaines sont vraiment très envoûtantes. Voilà. Ouais, je suis vraiment gentil, mais
Trouve. Mais c'est bien, continuez.
Non, mais comme je n'interview que des gens que j'aime bien, je perds pas mon temps à rencontrer des gens que j'aime pas. Voilà, je préfère partager mon enthousiasme et mon amour pour le travail des personnes plutôt qu'en dire du mal. Ça me paraît important. Valérie, je te remercie pour ces moments passés avec moi pour parler d'Alix et de ton travail. Je rappelle à tous nos auditeurs que le dernier Alix Sanator vient de sortir. Le titre, c'est L'Esclave de Khorsabad. C'est publié par les éditions Casterman et je cherche le prix sur l'album. Je ne le trouve pas.
Ça doit être dans les 15 euros, mais je ne sais plus exactement.
Et ça, c'est le prix classique d'un album de bande dessinée. Donc, c'est tout à fait donné pour un tel plaisir de lecture.
Totalement. Voilà.
Je te remercie, Valérie.
Merci à toi.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Wow. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.